Irwin rouvrit les yeux, regarda le président qui continuait de souligner avec fierté, mèche au vent et sourire en batterie, les résultats de sa politique intérieure. Baisse de la criminalité infantile suite à l'interdiction des jeux virtuels aux moins de 15 ans, effet dissuasif certain de l'augmentation des peines de prison en cas de tentative de suicide et diminution sensible du nombre de cancers depuis la campagne d'incitation à refumer, les médecins ayant prouvé que la carence en vitamine C provoquée par le tabac enrayait le développement des métastases. Irwin haussa les épaules. La diminution des crimes à l'école s'expliquait par la dénatalité. Quant au suicide, si les arrestations étaient moins nombreuses, c'est que les désespérés ne se rataient plus. Et les nouvelles cigarettes bio avec leur papier soja, dénicotinées, garanties sans goudron ni agent de texture, ne prouvaient que la victoire d'un lobby, le pourcentage annuel de cancéreux baissant du fait qu'ils mouraient de plus en plus vite. La faillite du système médical et l'impuissance croissante des chercheurs face aux nouvelles pathologies constituaient, aux yeux d'Irwin Glasner, son bilan après 2 décennies de tentatives infructueuses pour sensibiliser les politiques. Ils avaient beau connaître les causes, ils ne faisaient que lutter contre les évidences. Si la dernière paix mondiale avait été gagnée par les virus, c'est que le terrain était miné de toutes parts. Effets de serre, champs électromagnétiques, OGM, protéines de synthèse, édulcorants, toutes ces nouvelles molécules et ces agressions neurobiologiques qui avait bouleversé le métabolisme de l'espèce humaine en moins d'un siècle. Et la seule réponse qu'avaient donnée les différents gouvernements aux mesures qu'Irwin suggérait pour enrayer la catastrophe, c'est qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. L'homme s'adapterait, c'était la loi de l'évolution. Ou il disparaîtrait, ripostait Irwin, c'était le décret d'application de la même loi. Dans tous les conseils et commissions où l'on avait sollicité son opinion d'expert à titre indicatif, il avait démontré que les fours à micro-ondes et les fréquences des téléphones mobiles provoquaient à la longue des cassures d'ADN sur les 2 filaments hélicoïdaux, entraînant des modifications de code, des états mutagènes, des programmations de cancer, et que l'unique prévention était la mise au point d'un médicament à base d'antioxydants, comme la mélatonine. Mais les laboratoires pharmaceutiques, paralysés par leur service juridique chargé de la protection contre les consommateurs, employaient désormais davantage d'avocats que de chercheurs, ces irresponsables dont les innovations pouvaient déclencher des milliers de procès pour défaut de guérison ou effets secondaires. Moralité, la science qui aurait dû triompher de la religion s'était fait étouffer par la loi quand elle ne se laissait pas détourner à des fins mercantiles, et c'est la religion qui avait repris le pouvoir sous forme de secte alliés aux mafias régnant sur la politique et l'économie mondiale. Dans ce paysage, la recherche scientifique était devenue pour les étudiants une option suicidaire, au mieux un travail d'historien, et Irwin Glasner attendait la mort sans regrets excessifs, du moins sans argument de nature à justifier un délai de réflexion. Imperturbable, le président Nelcott continuait de triompher au micro. Non seulement les chiffres de l'obésité avaient fondu, priorité nationale, mais, grâce à l'obligation d'un suivi psychiatrique, le nombre d'Américains affirmant avoir été enlevés par des extraterrestres était passé de 3 millions à 2,4 millions, le meilleur résultat en 15 ans. Depuis que la norme définie par les États-Unis avait été adoptée au niveau mondial, l'effet de serre était contenu dans un taux acceptable pour l'environnement, la légalisation du clonage humain sous contrôle fédéral, en stimulant le travail des généticiens, permettrait un jour de compenser la dénatalité due à la baisse de fertilité masculine, et les indicateurs confirmaient un prochain retour à la croissance. Tous les espoirs étaient donc autorisés pour l'avenir, et le buffet était ouvert. Les bras au ciel, le président salua sous les applaudissements nourris qui couvraient soigneusement les questions de 2 ou 3 journalistes démocrates sur la politique étrangère. Il sauta de l'estrade, présenta ses hommages à une ex-première dame, serra quelques mains, tapa des omoplates et croisa le regard de son conseiller scientifique. Alerté par son expression, il se faufila vers lui, tout en demandant aux photographes des nouvelles de leur famille. Sur les 5 présidents qu'avait servi Glasner, celui-ci était loin d'être le pire. Il ne connaissait rien, mais s'intéressait à tout, s'entourait plutôt bien et, dans un pays asphyxié par la dépression nerveuse, la morale sectaire et le cynisme affairiste, il respirait la santé et voulait sincèrement partager avec ses compatriotes l'oxygène des sommets. C'était un homme heureux avec tout l'agacement que cela implique chez le commun des mortels. Cependant, sa victoire n'avait pas surpris les observateurs. Après une femme démocrate, il était normal que les Américains élisent un républicain gay. Un problème, Irwin ?
Je viens de recevoir un appel, monsieur. Je ne sais pas encore s'il convient de le prendre au sérieux, mais...
Nelcott tourna un regard affolé vers le cordon sanitaire des gardes à mitraillette, censé protéger le buffet contre les tentatives d'empoisonnement. Pour conserver son attention, Irwin ne le rassura pas tout de suite, et le service d'ordre les isola des journalistes par une manœuvre concentrique. Réservés aux quartiers pauvres, les explosions de kamikazes laissaient la place aux attentats chimiques dans les zones sécurisées, et une administration incapable de nourrir la presse sans l'intoxiquer compromettait grandement ses chances de réélection.
Vous rappelez-vous le projet Oméga, monsieur ?
Terrorisme ?
Biogénétique.
Ça concerne le buffet ?
Non, mais c'est une urgence. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes après la réception ?
Voyez avec Antonio.
Glasner se tourna vers le premier homme, un avocat fiscaliste passionné d'échecs, brillant cerveau qui avait propulsé son époux au sommet de la nation et qui, régnant sur les coulisses de la Maison-Blanche, tenait le pays d'une main de fer pendant que le chef d'État maniait son gant de velours.